Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Dans le bureau de Par Jupiter, pour le dernier jour de vacances, c'est Christine Gonzalez qui assure la permanence de l'émission.
On ne peut pas y échapper.
Oh, il est déjà là, lui. Allez, Jean-Paul Sartre, vous voulez pas me laisser tranquille un peu pour une fois, que je profite de cette journée seule?
C'est absurde.
Oui, oh, vous allez vous calmer, ouais. C'est Charline qui l'a demandé.
Mais c'est merveilleux.
Oh, Dalida. Oh, ça me fait plaisir que vous soyez là, qu'on passe cette journée en tête à tête. Oh, ça me réjouit.
Cela m'excite énormément.
Ah, pas moi aussi, hein, croyez-moi, mais enfin. Enfin bon, c'est pas foufou, hein. On va juste passer la journée à attendre au bureau.
Mais non, parce que c'est la première fois de ma vie que je vais faire ce genre de choses.
Je peux rester avec vous?
Tranquille, hein. Tu veux pas un cocktail aussi?
Ah oui, tiens, pourquoi pas.
Je veux dire que j'avais prévu une petite lecture de La Recherche du Temps Perdu. C'est complètement raté.
Je vois pas de plus grand cauchemar qu'on puisse m'indiquer.
Oh, Sartre, vous êtes jaloux parce que j'ai pas choisi l'un de vos textes? Oui, clos, par exemple. Ah, oh, bah oui, ça sera approprié, ça. Hein.
Entre nous, Christine, je trouve que Sartre, il est un peu surcoté.
Vous savez, je pense qu'ils ne comprennent pas tout ce que j'ai fait, ce qui ne veut pas dire que ce soit trop fort pour eux, mais ils n'ont pas le langage pour le comprendre. Par ailleurs, sur beaucoup d'autres plans, ils pourraient me comprendre très bien.
On le vire, non? Si on restait tous les deux, j'aurais plein de choses à te dire.
Oh là là, t'es jamais en vacances, toi, à la voix?
Non, je suis bien avec toi.
Je pense qu'il peut se la faire.
Bonjour la France Inter, vous écoutez la seule émission qui fait revenir pendant les vacances deux invités pour leur faire dire exactement la même chose que la dernière fois qu'ils étaient venus. On va penser à déposer le concept d'ailleurs, faites-moi penser Juliette.
Je le note.
On a renvoyé un Bristol à Danielle Thompson pour qu'elle nous raconte ses plus beaux souvenirs avec Gérard Oury, son père. Leur collaboration a donné des chefs-d'œuvre de comédie populaire qu'on écoute encore tous les jours dans cette émission. On parlera avec elle de la comédie sociale à la française, là où l'humour permet d'adoucir les sujets rugueux. Ensuite, nous accueillerons Cynthia Fleury, elle est philosophe et psychanalyste, et elle nous enjoint à remettre le soin au cœur de nos pratiques pour rendre le monde habitable. Comme elle est balèze en philosophie politique, on lui a demandé si le clivage gauche-droite, qui était censé avoir disparu, n'était peut-être pas en train de revenir au galop. Et elle parlera aussi de la législation des drogues douces dans un cadre thérapeutique, parce qu'une expérimentation commence dans 2 mois, début 2020. Juliette, 3 membres de l'équipe vont intervenir,
oui.
Qui forment le Cerbère, le chien à 3 têtes qui garde la porte de Par Jupiter.
Oui, et le premier, ça sera Thomas VDB. Vous vous souvenez, on avait plongé avec lui au fond des océans, il y avait une baleine, il y avait des espions, mm-hmm. Et il y avait de la musique, bien sûr.
Oui, ça me dit quelque
ça
chose.
Ça vous dit quelque chose?
Baleine, voilà. Espion, tout de hein suite.
Tout de suite, bah, évidemment. Voilà, bien sûr. Ensuite, on écoutera Christine Gonzalez, qui avait réussi cette chose triomphale, intégrer Albert Camus dans Qui veut gagner des millions. Mm-hmm. C'est magnifique. Et enfin, une chroniqueuse que j'aime beaucoup, qui s'appelle Juliette Arnaud.
Oh bah non, la meuf, elle s'annonce elle-même, quoi. Ok, d'accord.
Non, okay. Ah oui, bah oui, j'y peux rien. Et elle nous parlera d'un roman de la seule écrivaine qui ait lu Obama pendant ses 8 ans à la Maison Blanche.
Vous vous en rappelez de cette chronique?
Mais bien sûr, je m'en souviens très bien.
Très bien. Est-ce qu'à la fin de l'émission, il n'y aurait pas un type avec une guitare qui viendrait nous chanter quelque chose?
Si. Et il va chanter un truc genre « Besoin de rein, envie de toi ».
Ah, d'accord.
Ouais, mais en mieux. Vraiment mieux.
Merci Juliette. Eh bien, on va entamer cette émission. Oh là là, ça c'est Madeleine de Proust à tous les étages. Hein. Ça, on va kiffer. Danielle Thompson avec nous.
France Inter. Charline Vanhoenacker, Juliette Arnaud.
Par Jupiter.
Bienvenue Danielle Thompson.
Ben écoutez, je suis ravie d'être là.
Oh ben, nous aussi, on est très très heureux. Et on a beaucoup aimé le livre que vous publiez aux éditions de La Martinière. On va avoir l'occasion d'en parler pendant toute l'émission car c'est un livre qui s'intitule « Gérard Oury, mon père l'as des as » donc par Danielle Thompson avec Jean-Pierre Lavoignat. C'est un très beau livre illustré, il y a beaucoup de photos, de documents, de récits. Vous racontez la collaboration avec votre père Gérard Oury, à partir déjà du Corneau où vous donnez quelques idées, et puis réellement quand vous co-scénarisez avec lui La Grande Vadrouille, on découvre votre modus operandi. Vous racontez l'homme, le comédien, le scénariste, le réalisateur, votre famille, votre maman, l'actrice Jacqueline Roman, votre belle-mère Michèle Morgan, et puis les films avec les coulisses, la fabrication, le cerveau, la folie des grandeurs, Rabbi Jacob entre autres. Il y a notamment pour Rabbi Jacob une photo de la page annotée du scénario avec la fameuse scène culte Salomon, vous êtes juif, on voit toutes les petites annotations, etc. On voit que c'est de la, c'est ciselé. Hein. Il y a un petit haut au crayon qui vient s'ajouter comme ça sur le.
Et puis, une page du scénario avec les taches vertes de l'usine de chewing-gum.
C'est vrai. Vous ouvrez donc les archives familiales. Dans votre caisse, ce sont des archives nationales. Quand on voit tous les films et puis votre famille en général. Donc, est-ce que c'était presque un devoir pour le public et les millions et les millions et les millions de gens qui ont vu les films et qui ont vu et puis aussi votre père, votre maman, votre belle-mère au cinéma. Mais
je pense que c'est un supplément de plaisir. Je pense que comme ces films sont intacts à tous les points de vue, c'est-à-dire que non seulement ils vieillissent merveilleusement bien, mais en plus ils continuent à être vus et revus avec des succès complètement hallucinants.
On s'en lasse jamais. Voilà,
et que toutes les générations montantes les revoient, et j'imagine les familles en disant on va le voir 5 minutes, mais on va les montrer aux enfants, et puis en fait ils s'assoient avec les enfants, et puis en fait ils font comme nous tous, finalement ils restent là et ça réveille des souvenirs de tas d'étapes de leur vie. Donc et en fait je me suis dit oui, c'est un témoignage, c'est un, comme je disais, c'est un supplément de plaisir, parce qu'on va découvrir aussi bien dans les textes bien sûr, mais aussi beaucoup dans les photos, l'envers du décor, mais c'est les images dans lesquelles se trouve mon père, donc par définition des images de coulisses
de tournage,
et évidemment le récit des coulisses aussi et de comment les choses se sont faites, et puis de sa vie aussi à lui, qui est une vie assez inattendue et assez passionnante, avec des tas de choses que les gens savent pas,
comme comédien avec les Cours Simon par exemple, c'est ça.
Voilà, comédien, l'enfance, les histoires de famille, la guerre, les difficultés, les débuts difficiles et puis la fin difficile aussi, et puis au milieu quand même une merveilleuse histoire.
Alors en plus d'être le livre, en plus d'être un cri d'amour et une archive nationale, effectivement, il y a une chose en filigrane que moi je trouve très touchante, c'est que c'est une forme de réhabilitation de votre père. Tout le monde s'accorde à dire que Gérard Rouy a fait sans doute les plus grandes comédies françaises. Vous précisez que c'est aussi quelqu'un qui avait une réelle fibre artistique et qu'il était reconnu de son temps et de notre temps par des intellectuels. Il y a une lettre de Truffaut qui lui parle du Corneau, il y a un texte de Desplechin, pareil, qui dit beaucoup de bien. Et il y a ce petit moment où vous parlez de Raoul Dufy qui avait noté la robe mauve de la dame.
C'est pas Raoul Dufy, c'est Claude Renoir.
Et
puis c'est un artiste aussi qui s'appelait Pignon, qui est un merveilleux peintre qui était un grand ami de Picasso, qui a détecté ce détail dans La Grande Vadrouille, au moment où il y a ce public de l'opéra avec ses officiers allemands. Bon, on connaît l'histoire, c'est le cas de le dire. Juste avant que ce fameux balcon n'explose. Et en effet, il y avait une figurante qui avait une robe mauve, et mon père avait une aquarelle de Dufy où il y avait une tache verte. Et il a vu cette femme avec cette robe mauve, il a fait changer de place, il a dit à son assistant, va chercher cette dame. Mais là, il a voulu que cette espèce de couleur, c'est le principe même d'une vision artistique, c'est que tout à coup, ça change complètement le plan d'avoir cette tache-là. Alors les gens le subissent sans s'en rendre compte, sauf quelques personnes qui sont justement, ou soit des peintres, soit un chef opérateur, qui ont dit « Ah, mais j'ai remarqué la couleur dans
ce
plan. »
Gad Elmaleh, il fait pareil, mais avec des sketchs entiers du monde espagnol.
Oui, il y a un esthétisme dans ces comédies. Et à quel moment vous cessez la collaboration avec votre papa, Gérard Rouy? Comment est-ce qu'on met fin à une collaboration avec son père? Parce qu'à un moment, ça arrive. C'est le moment où vous travaillez avec Patrice Chéreau sur La Reine Margot.
Oui, c'est le moment où, en fait, parce que c'est vrai que c'est un moment donné où j'ai eu la sensation, et je pense lui aussi, qu'il y avait une usure, et qu'on avait, je crois, écrit 11 ou 12, ou je ne sais plus combien de films ensemble, 11 films, je crois. Et donc, c'est en effet un moment bizarre, et qui s'est finalement très très bien passé entre lui et moi, parce que je pense qu'il s'est aussi dit peut-être que c'était bien de tout à coup s'attaquer à d'autres jeunes auteurs.
Parce que vous écrivez avec d'autres.
Je commençais à devenir une vieille auteure. Et je pense que ça a été assez ambigu pour lui d'être à la fois très heureux que tout à coup cette vie professionnelle prenne son élan, parce que j'étais sa fille, sa petite fille, sa grande fille, et que ça lui faisait très 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 plaisir, et en même temps il y a un moment donné où il faut lâcher prise. Alors en général ça se passe quand les gens ont 20 ans, là j'avais beaucoup plus, mais voilà, ça s'est passé très bien.
Vous le racontez donc dans cet ouvrage, très bel ouvrage, Gérard Rouy, mon père, l'as des as, par Daniel Thompson avec Jean-Pierre Lavoignat, aux éditions de La Martinière, et on vous écouterait pendant des heures.
La vie c'est bon, 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 mais pas trop quand même. Non,
la vie c'est bon, 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 parce qu'on est vendredi en plus. Vous écoutez France Inter par Jupiter. Daniel Thompson est en notre compagnie. Je voulais vous demander, quand on construit un gag, parce que autour de cette table, il y a plein de gens qui font des petites blagues.
Oui, enfin, qui
sont écrites le matin, l'après-midi, puis hop, 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 on les fait. Voilà, on se pose pas de questions. Quand on construit un film, on construit des gags. Le gag, il arrive à l'écran un an et demi après l'avoir conçu, écrit. Est-ce qu'on a le temps de douter, de se dire est-ce que ça va marcher à l'écran?
D'abord, c'est peut-être comme vous d'ailleurs ici, on rit une fois. Après, c'est fini.
Ouais. Ici, ça dépend. Ça peut se répercuter une partie de la semaine.
Ne dévoilez pas
donc,
le mot.
On rit une fois et puis le lendemain, on rit plus, mais on en parle, on analyse le truc et puis comment on va faire, et puis est-ce que c'est vraiment bien, etc. Donc c'est vrai que le doute, tout de suite après le rire, le doute arrive. Mm-hmm. Donc et on a la réponse dans une salle un an et demi après.
À côté de vous, Daniel Thompson, et pour nos auditeurs, voici le moment, dites donc, accrochez-vous, de Thomas VDB.
Thomas VDB, c'est moi. Et je pense, comme vous le savez tous, comme le savent tous les auditeurs, je suis quelqu'un moi qui est vraiment un vieux loup de mer. Moi, j'aime aller bagdoder sur les remparts de Saint-Malo. J'aime bourrer ma pipe en pêchant au gros, en plein duel avec un espadon. Et je mords dans ma chic de tabac avec mon ciré. Je peux dire que je mords fort dans ma chic. Et si comme moi, vous êtes un amoureux de la mer, venez, je vous emmène aujourd'hui au fond des océans.
Actualisé. C'est un mélange d'actualité et de musique.
Jingle.
Cette semaine, donc, on le disait tout à l'heure, des pêcheurs norvégiens ont aperçu une baleine équipée d'un harnais et d'une GoPro. Et donc, il y a de gros soupçons pour que ce soit une baleine qui fasse de l'espionnage pour les Russes. On dit que c'était peut-être une baleine qui faisait du rappel en escalade, mais franchement, ça paraîtrait assez étonnant. Il n'est venu à personne l'idée que ça pouvait être une baleine qui s'était juste empêtrée dans un vieux harnais pourri qui traînait au milieu des sacs plastiques en pleine mer. Ils ont vu la baleine, ils se sont dit « Espion russe !» Ça, à tous les coups, c'est un espion russe. Chapeau, je trouve quand même la présence d'esprit. J'aimerais pas, évidemment, être à la place de la baleine qui, en ce moment, doit être en train de subir un interrogatoire corsé. T'étais où dans la nuit du 15 au 16 ? Alors, j'imite assez mal les cris de baleine.
Mais t'es un cochon.
Il faudrait, oui, c'est un cochon baleine. J'ai pas pris le temps de répéter le cri de baleine, quand même. Je croyais pas que j'ai que ça à faire dans mes journées. Alors, pendant la guerre froide, déjà, les soviétiques, il faut savoir qu'ils avaient déjà dressé des phoques et des dauphins à chercher des mines ou à poser des explosifs. Enfin, voilà, faire que des trucs vraiment, qui font vraiment plaisir aux animaux. Ils aiment bien faire ça. Alors, comment on fait pour dresser un dauphin? C'est pas dur. Vous avez un dauphin, vous prenez du galac. Après, vous lui dites, tiens, du galac. Et après, le dauphin, il s'en va et il va poser les explosifs.
Vous faites bien le dauphin, par exemple. Ah, ouais, non,
si vous êtes né après 1990 et que vous n'avez pas vu la pub Galac, voilà, c'est normal si vous trouvez cette blague pas marrante du tout. Alors en tout cas, c'est fou, je trouve, moi, ce rapport qu'il y a entre les humains et les animaux, parce que quand on les torture pas pour les manger, finalement on les manipule afin qu'ils servent notre idéologie, et on se dit vraiment c'est top. C'est-à-dire quand on en fait pas du pâté, on en fait des espions pour aller poser des bombes. C'est-à-dire que même quand on en fait des espions, il y a toujours un moment où on finit par en faire du pâté finalement. Voilà, on peut penser que c'est un peu abusé d'utiliser un animal comme kamikaze. C'est vrai, parce que normalement un kamikaze, il est un peu au courant de ce qu'il fait. C'est vrai, nous les animaux, on leur dit tiens, va là-bas, voilà, et ils y vont et paf, voilà, et, comme dirait Louis de Funès d'ailleurs. Paf, voilà. Et ils s'en foutent. C'est vrai que les animaux, ils s'en foutent de notre idéologie. Ils s'en foutent qu'on soit nazi, djihadiste ou communiste. Voilà, sauf le requin marteau et le requin fossile, qui sont clairement plus à gauche quand même. Voilà. Et heureusement, l'homme, il sait aussi être reconnaissant envers les animaux. Je peux dire que récemment, j'ai vu une cérémonie où ils remettaient des médailles à des chiens policiers pour le super boulot qu'ils avaient effectué. Je me dis, je me posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment qu'ils sont contents, les chiens-chiens, qu'on leur donne une médaille? Je me dis, est-ce qu'ils sont vraiment contents, à part les mêmes êtres? Je me dis, et qui est content qu'on leur donne une médaille? Est-ce qu'une gamelle de pâle, ce serait quand même pas une façon plus logique de récompenser le chien, je pense? Dans l'armée anglaise, j'ai également vu qu'il y a une chèvre qui s'appelle William Windsor, qui avait atteint le grade d'aspirant caporal et qui a été rétrogradé suite à un comportement désobéissant et belliqueux. Une chèvre qui a été rétrogradée. Alors je me dis, est-ce que quand on organise des cérémonies pour récompenser une chèvre, puis pour la rétrograder, on peut parler pas de quelque chose qui soit de l'ordre de la perte de temps? Je pense un petit peu quand même, un minimum. Voilà, en tout cas, rien que dans les débordements qu'il y a dans l'actualité, rien que quand je vois les débordements qu'il y a eu, je me dis que les animaux animaux pourraient nous aider. Si on avait un peu de jugeote à l'entrée de la Pitié Salpêtrière, ben on mettrait des ours qui patrouillent à vélo. Et surtout, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo de Florian Philippot.
Oui, oui, oui.
Parce qu'il y a une vidéo qu'il faut avoir vue.
Ah, il faut raconter là.
Alors, Florian Philippot, il est au balcon de la mairie de Forbach et tu sens qu'il est en train de fomenter une belle filouterie. Vraiment, il est là, il a dit au gars de la vidéo, c'est bon, ça tourne. Okay, voilà. Et là, il commence sa filouterie. Et en fait, il dit, regardez ce que je vais faire. Regardez ce que je vais faire. Et ben, en fait, il a un drapeau français dans la main et il enlève le drapeau européen accroché à la mairie et il met son drapeau français. Et alors, il est fier de sa connerie. Juste après l'avoir mis, il est hop, voilà. Et on sent vraiment dans le hop, voilà, qu'il est très content de son truc. Et moi, je me dis, là, quand j'ai vu ça, je me dis, ça m'a donné vraiment envie. J'aimerais trop dresser un écureuil à venir remettre le drapeau européen tous les matins. Et je me dis, tous les matins, Florian Philippot, il reviendra à la mairie. À chaque fois, il devra remettre le drapeau français. Il ne comprendra rien. Tu sais qu'il a remis encore le drapeau européen. Voilà. En tout cas, on peut vraiment se demander ce qu'on deviendrait, nous, si on n'avait pas les animaux pour nous aider. Par contre, je pense que si nous, on n'était pas là, je suis sûr que les animaux, eux, ils seraient pas plus malheureux.
VDB, merci. Daniel Thompson a la gentillesse de bien vouloir rester masqué.
Elle prend un petit peu une leçon d'écriture aussi, on va pas se mentir.
Daniel est avec nous et on va aborder ce premier sujet. Quand on a envie de comprendre, mais qu'on a aussi envie de rire, il y a la comédie sociale. Un modèle du genre, ce serait par exemple La crise de Colin Serrault, qui date de 92. Aujourd'hui, il y a les films de Kervern et Delépine ou de Louis-Julien Petit avec Discount ou Les Invisibles, dans lesquels joue Corinne Maziro. Faut-il une dose de réalité sociale pour que la comédie soit mieux considérée? Déjà, quand il y a du fond, les acteurs ont plus de choses à dire pendant les interviews.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film, alors?
L'histoire était bien. Enfin, du film, c'est vraiment... oui, et... Il y a un ton burlesque aussi. Chouette. Voilà.
Ouais, on sent qu'il y a eu beaucoup de plaisir sur le tournage.
Ah oui. En même temps, c'est pas forcément dans les comédies qu'on prend le plus de plaisir. Hein. C'est assez tendu, quoi. Très tendu même. Je trouve que ça se ressent à l'image, d'ailleurs, je trouve... C'est quand même un peu chiant le regardant. Enfin, je veux dire, je peux dire que les gens là, avec la crise des attentats, ils ont forcément envie de se taper.
Bon, pardon, on va reprendre.
C'est Virginie Efira dans la série de France 2, 10%.
C'est pas pour de vrai.
Mais ça paraissait tellement réel.
Ouais,
Daniel Thompson, comédie sociale, est-ce qu'il n'y a pas une part de pléonasme dans une. Enfin, est-ce qu'on peut faire une comédie sans partir d'une forme de réalité sociale, dans le fond?
Je crois que pas. Je crois qu'effectivement, la grande tradition, tout de même, justement, de la comédie sociale, elle est déjà chez Chaplin.
Évidemment.
Donc, ça, c'est vraiment quand même la base de tout.
Ouais.
Et c'est vrai que on est profondément ému. On rit beaucoup parce que c'est ce que les Américains appellent le slapstick, merci beaucoup. Merci bien, je crois ce qui m'arrive. Et c'est vrai que...
Et le plastique, c'est fantastique.
Mais ouais, c'est fantastique parce que, effectivement, quand les gens reçoivent une tarte à la crème dans la figure et tombent par terre, etc., que ça déclenche cette espèce de rire automatique, c'est d'autant plus efficace si 5 minutes après, tout à coup, on a les larmes qui montent et on est bouleversé parce que, ouais, parce qu'on voit, voilà, un petit homme qui se fait fiche à la porte par le brave milliardaire ivre-mort qui l'a accueilli la veille, c'est le grand principe de Lumière de la ville.
L'un met en relief l'autre, le rire et l'émotion.
Absolument, et je pense que ça c'est une des choses les plus efficaces finalement, parce que si on ennuie les gens avec des sujets qui sont dramatiques, ça fait pléonasme, alors que si on arrive à envelopper tout ça dans la comédie, bizarrement...
On espère que les frères Dardenne nous écoutent.
Oui, bah, c'est...
ça manque
mais,
de tarte
mais
à
dans
la
les
crème.
Dans les comédies de mon père dont on a parlé, il y a quand même un tout petit peu, c'est une, à mon avis, une des raisons de cet énorme succès du tandem Bourvil de Funès, c'est qu'il y a quand même une différence sociale. Il y a l'homme riche ou le gangster riche ou le chef d'orchestre intellectuel qui pense dominer le brave mec, le brave homme qui est Bourvil. Il y a un petit peu de ça là-dedans.
Ouais. Et puis il y a la guerre, il y a le racisme, il y a
le danger, il y a tout ça. Et donc je pense que c'est effectivement un moteur qu'il faut jamais oublier dans une comédie ou dans un film social.
Daniel Thompson, on rêverait de jouer avec vous si vous êtes d'accord. On propose un sketch à la fin de l'émission à l'invité.
Alors, le sujet,
quoi s'agit-il?
Il n'y a pas de piège, vous inquiétez pas.
Oh.
Alors, on n'a jamais autant parlé de Nathalie Loiseau que depuis qu'elle fait des bourdes énormes. Alors, son équipe de com a décidé de mettre le paquet et de faire appel à une grande scénariste de comédie pour écrire les prochaines bourdes. Daniel, vous jouerez votre propre rôle, Charline et Nathalie Loiseau, et Guillaume est le chargé de com.
Bon, Nathalie, entre, je t'en prie.
Ah, je vois que ça bosse, hein. C'est bien, c'est pas du travail d'arabe.
Bon, voilà, on va commencer par un petit point d'étape. Alors, la polémique sur ton passé d'extrême droite a très bien marché.
Ah, ça oui. Hein, ça
on
oui.
a enchaîné avec les polémiques sur l'homophobie, sur les romanichelles.
Oh, on a bien ri.
Voilà, et le même jour, tu félicitais oui. les Espagnols de Ciudadanos oui. liés à l'extrême droite pour leur résultat aux élections. Mm. Donc là, t'es au top, hein, Natou.
Oui, d'accord.
Attendez, là, je comprends pas très bien votre stratégie.
Alors, voilà, Nathalie, je te présente Daniel Thompson qui va nous aider pour la campagne.
Oh, enchantée, Madame Thompson. J'ai adoré votre rôle dans Shining.
Non, alors, non, tu confonds avec Jack Nicholson, ça n'a rien à voir.
Oh, la boulette voilà, ouais. Allez, 1 euro dans la boîte à conneries.
Voilà, on est à deux doigts de financer toute la campagne avec cette boîte.
Dites, ce serait pas l'heure de goûter, là, parce que j'ai un petit creux, je mangerais bien une petite tête de nègre.
Ah putain, c'est pas possible, elle s'arrête jamais. Hein.
Donc l'objectif, c'est que Nathalie fasse un max de conneries, c'est ça?
C'est exactement ça. À chaque polémique, les médias parlent de nous.
Il n'y a pas de mauvaise publicité, hein. Il n'y a que de mauvais candidats.
Voilà. Seulement là, on est un petit peu à court d'idées, quoi. Ça fait plus de 48 heures qu'elle n'a pas fait de bourde. On est ressorti des radars, quoi.
Alors, dites-moi, vous voulez quel genre, quel type de bourde?
Alors, bon, l'homophobie, on l'a déjà fait. La religion aussi. Le racisme, c'est fait.
Ah oui, ça arrive nettement le champ des possibles. Ouais, bon, ouais. Alors, quel est votre programme pour les jours à venir?
Ah, ben, je vais voir un match de foot féminin ce soir.
Ah ben, c'est bien ça, la bourde sexiste, on n'a pas fait encore.
Très bien, en sortant du stade, vous déclarez « La place des femmes n'est pas dans un stade de foot, mais dans la cuisine ».
C'est hyper bien. Tu notes, hein, Nathalie, ça?
Ah, oui, ah, oui, oui, mais je suis crevée, moi je me ferais bien une petite heure à l'antillaise, là.
Une heure à l'antillaise, ça veut dire quoi?
Non, c'est sa façon de dire qu'elle ferait bien une sieste, en fait.
Ah oui, oui. C'est un truc qu'on disait souvent avec mes amis à Sciences Po. Mmh.
Je vois qu'il y a aussi une visite officielle à Bruxelles dans l'agenda.
Oui, en effet, oui, oui, oui.
La première chose que vous faites en arrivant, c'est d'aller à la messe.
Non, on l'a déjà fait, ça.
Ah ouais. Oui, quand même. Bon, bah, ouais. Vous pouvez dire que vous êtes honoré de rencontrer le président de la République belge, par exemple.
Ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup, ça.
Attendez, parce que j'ai pas compris. En plus, je parle pas le belge.
Ah oui, on en est là. Bon, vous ne voulez pas sillonner l'Europe pour parler du climat?
Ouais.
Mais en hélicoptère.
Ah, pas mal, l'hélicoptère. Ouais. Ouais, bon, il y a Nicolas Hulot et Yann Arthus Bertrand, ils le font déjà.
Attendez, parce que je comprends pas, mais. C'est pas bien l'hélicoptère. Je comprends pas.
La mi-temps du vendredi, alors là c'est différent.
Déjà c'est suisse.
Mi-temps du vendredi arrive au bout d'un TGV qui nous vient de Genève.
De Lausanne.
Oui, mais le TGV part de Genève. Oui, il y a une connexion.
Mais d'accord.
On explique aux auditeurs. Donc qui fait cette connexion?
Eh ben c'est Christine Gonzalez.
Ah bah ouais.
Bien sûr, en direct de Lausanne, je vous affirme.
Mais non, elle est dans le studio.
Oui, mais elle nous vient de Lausanne.
Je vous jure, il y a une connexion.
Mais Lausanne, pas tant que ça.
Non, si.
Mais dites pas ça à quelqu'un qui habite à Lausanne.
Un jeu télévisé culte est de retour à l'antenne en quotidienne. Cette semaine, après presque 10 ans d'absence, TF1 lance une nouvelle version de Qui veut gagner des millions. Dans l'au-delà aussi, on y joue et on adore ça. Notre candidat du jour est un écrivain, philosophe, prix Nobel. Il s'appelle Albert Camus. Comment ça va, Albert? Ça fait presque 60 ans que la mort nous sépare.
Je ne me suis jamais senti séparé.
Enfin, je voulais dire que ça fait 60 ans que vous êtes enterré.
Évidemment, c'est le destin de tout artiste que d'être enterré. Et je ne vois pas pourquoi j'échapperais personnellement à ce destin.
On commence à jouer?
Oui.
Première question à 100 euros. Quel est le livre le plus vendu en ce moment en France? A. Ghost in Love de Marc Lévy. B. Le dernier jour d'un condamné de Patrick Balkany. C. L'étranger de Marine Le Pen. Vous hésitez?
Il n'y a pour moi que des écrivains secondaires, des polygraphes, des tâcherons qui prestent au second plan.
Mais on va passer comme ça. A, B ou C?
A.
Vous avez dit A. Marc Lévy, et la bonne réponse est A.
Oh là,
bravo Marc Lévy. Ghost in Love.
Eh bien, ça prouve qu'on les lit mal, les livres en question.
Oui, mais ils vont. Enfin, voilà, c'est comme ça. Vous gagnez 1000 euros, bravo. La question suivante est à 10 000 euros. C'est une question de poésie. Vous devriez trouver. C'est en plus c'est de la poésie du XXe siècle. Je cite. Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui... C'était un lapin qui... avait un fusil. La question est... Quand le lapin a-t-il tué le chasseur? A. C'était un matin. B. c'était un soir. C, c'était un jeudredi. Alors, quand le lapin a-t-il tué un chasseur, Albert Camus ?
Un matin.
Bravo, Albert Camus ! Quel suspense ! Alors, on aime jouer, mais alors...
Cela suppose une interminable tension.
Une tension terrible, oui. Nous grimpons sur l'échelle des gains. Nouvelle question pour 100 000 euros. Quelle est l'actualité la plus pénible à suivre en ce moment pour les Français ? A. Le Festival de Cannes. B. Le journal de presque 17h17. C. Les élections européennes.
La C.
Ouais, c'était facile. Hein. C'était facile, les élections européennes. Pourquoi tout le monde s'en fout, à votre avis ?
L'homme européen, aujourd'hui, hésite et tourne de tous les côtés, ne voyant à choisir apparemment qu'entre la servitude ou la folie.
Alors, quelle perspective nous reste-t-il, selon vous ?
La stérilité ou la mort.
Très bien. Bon, Albert Camus, on arrive à la question à 1 million d'euros. Quelle structure cimente les valeurs politiques françaises ? A. L'illusion d'une structure démocratique. B. La structure méritocratique, appelée aussi « si tu peux, si tu veux, tu peux, traverse la rue, trouve un job ». C. La structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique.
Eh bien...
C'est tendu, hein, c'est...
On peut le dire.
Bon, vous savez, vous avez encore tous vos jokers, hein, si vous voulez qu'on lance un coup de fil à un ami.
Oui.
Ok, alors on y va, téléphone.
Allô, qui vous êtes ?
Qui veut gagner des millions avec Albert Camus ? Et vous, qui vous êtes ?
Dali.
Salvador Dali ?
Oui, c'est moi-même.
Bon, alors pour 1 million d'euros et votre ami Albert Camus, savez-vous quelle structure cimente les valeurs politiques françaises ?
Que la structure moléculaire de l'acide désoxyribonucléique.
Vous validez cette réponse, Albert Camus ?
Oui.
Excellente réponse ! Ouais ! C'était l'acide ! C'était l'acide ! Vous êtes heureux, Albert Camus, hein ?
La souffrance n'a pas plus de sens que le bonheur.
C'est donc la joie. Merci, Albert Camus. C'était Qui veut gagner des millions de l'au-delà ? Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous demain avec une autre personnalité de l'au-delà, à savoir Grumpy Cat, le chat préféré des internautes, mort tragiquement à la suite d'une infection urinaire. Oui. Belle soirée à toutes et à tous. We'll be right back.
mais quel joli projet.
Je chante Star Crawler sur France Inter, yeah. Ouais, on est la future BBC à la française. Ouais, Radio France représente, donc Star Crawler. Programmation musicale, Djoubaka, oui, c'est par Jupiter, c'est vendredi, on n'en peut plus. Allez, restez avec nous. Restez avec nous, car ça n'est pas fini. Justement, on reçoit Cynthia Fleury. Elle est philosophe, psychanalyste. On va parler avec elle du soin qu'il faut remettre au cœur de nos vies.
Mais bien sûr.
In the heart of the life.
France Inter.
Ah, ne criez pas, hein.
Charline Vanhoenacker.
Ah, voilà des manières.
Juliette Arnault.
Où croyez-vous par Jupiter ?
Bienvenue Cynthia Fleury. Vous êtes Merci. Philosophe psychanalyste et vous publiez Le soin est un humanisme. C'est un livret, on dirait. Ça ressemble à un livret. C'est paru chez Tract, enfin chez Gallimard, une collection qui s'appelle Tract. Alors d'abord, expliquez-nous ce que c'est parce que ça coûte 3,90 €. Vous développez votre pensée en 30 pages dans un objet très souple comme ça. Mais il y a une histoire à cette collection Tract de Gallimard.
Tout à fait. L'histoire, c'est que dans les années 30, la maison Gallimard avait cette collection, des tracts, pour permettre aux auteurs de la maison Gallimard, Gide, Mann, Giono et autres.
Donc vous êtes bien entouré.
C'est un très beau compagnonnage. Et pour faire des saillies comme ça sur l'actualité. Quand vous êtes auteur Gallimard, généralement vous rendez votre livre 6 mois avant. Là, vous pouvez le rendre 15 jours avant. Donc c'est pas tout à fait la même histoire. Et l'idée, c'est véritablement d'avoir voilà une espèce de parchemin, des textes un peu impliqués, inséré, je dirais, dans l'actualité. Et puis une fois qu'on a lu, on le file au camarade qui est à côté.
Et une collection donc créée dans les années 30, une bien belle époque.
L'époque du soin.
Avec nous. Ça s'intitule donc « Le soin est un humanisme ». Et la base de la pensée que vous développez, c'est « Quand la civilisation n'est pas soin, elle n'est rien ». Qu'est-ce que ça signifie ? Quel est ce soin ?
Ce soin, si vous voulez, c'est tout simplement le fait que nous pensons que nous habitons le monde de manière évidente. Et en fait, pas du tout. En fait, le monde n'est pas habitable. Il n'est rendu habitable que par notre envie de le rendre habitable. Et cette envie de le rendre habitable, ça s'appelle le soin. Mm-hmm. Donc le soin, c'est quelque chose d'un petit peu plus vaste que simplement la santé. Mm-hmm. C'est tout simplement comment on est bien dans un milieu et comment ce milieu interagit de façon non toxique sur nous. Parce que bien évidemment que nous grandissons par les liens que nous avons avec les autres, par les milieux. Donc bien évidemment, il y a un rapport au vivant aussi, à la nature, qui est absolument important. Aujourd'hui, la grande santé, si j'ose dire, c'est quand même la question de l'environnement, la manière dont nous sommes liés à l'environnement. Et puis, il y a, ça vous a pas échappé, un grand moment institutionnel un peu en crise, et qui s'appelle aujourd'hui les urgences, les hôpitaux, etc. Moi, j'ai mis en place, il y a maintenant quelques temps, on va rentrer dans notre 5e année, une chaire de philosophie à l'hôpital, avec cette idée vraiment de rappeler que les humanités, c'était la base du soin, et qu'on soignait non pas des maladies, mais des sujets qui sont malades.
Rappelez-nous ce que ce sont les humanités.
Les humanités, c'est tout simplement les sciences humaines et sociales. Donc, ça va de l'anthropologie à l'économie, parce que je sais qu'on oublie ça, mais l'économie non dessaisie de sa finalité, l'économie au service du soin, mais c'est la science, c'est tout simplement tous les savoirs qui nous constituent et qui nous permettent tout simplement de vivre, quoi, de vivre mieux.
Et la formation des médecins devrait tenir compte davantage de ces humanités.
C'est-à-dire qu'on a une formation des médecins aujourd'hui encore un peu pauvre, alors pour toujours pour des raisons multiples et variées.
André Manoukian.
Avant la guerre, les médecins, ils faisaient bac philo. Et puis c'est après, petit à petit, dans les années 50, quand on a commencé à mettre les mathématiques, que tout a changé. C'est difficile presque à concevoir aujourd'hui. Moi, perso, j'ai fait 6 mois de médecine. Je me suis arrêté à la 3e vertèbre. Donc gynécologie amateur, c'est pas pareil. Mais voilà, donc...
Toujours gracieux.
Ouais,
je fais la passe, Marc Lebut.
Ce moment où on enseignait la philosophie à un médecin, finalement, ou la psycho, je trouve qu'on est plus près du sujet, on est d'accord. Ils savent pas gérer le rapport avec les gens.
On leur a pas appris. Et puis, longtemps, on a eu ce deuxième grand moment de l'hyperspécialisation, ce qui est une chose absolument essentielle, parce qu'on est très, très heureux qu'il y ait cette hyper-technicité aussi.
On préfère, oui.
Hein, voilà. Mais, à un moment donné, on sait aussi que la maladie, si vous voulez, comme elle impacte une personne, eh ben, elle impacte sa vie. Elle l'impacte de façon holistique. Et puis, il y a des grands shifts, si vous voulez, aujourd'hui, des grands changements. Un des grands changements, c'est le fait que les maladies chroniques sont devant l'infectieux. Et quand vous êtes dans une maladie chronique, vous êtes dans un incurable, donc le rapport au médecin change un peu, vous êtes dans de l'évolutif, ça va se transformer tout au long de votre vie, et vous êtes dans du sécularisé, entre guillemets, c'est-à-dire rendu au siècle, c'est-à-dire qu'en gros, vous êtes tout le temps malade, et en même temps tout le temps au travail, et en même temps tout le temps pas malade. Vous voyez, donc c'est un truc très compliqué. Et ça, ça crée des nouvelles pédagogies de la guérison, comme disait Canguilhem. Et là, le médecin souvent est un peu court, parce que lui, ce qu'il sait, c'est traiter, c'est la pathologie, mais pas du tout tout ce qui irradie autour. Et juste pour vous donner un exemple, les maladies chroniques, mais aussi les cancers, les récidives, tout ça. Hein, bon, aujourd'hui, dans la clinique, ce qu'on appelle la clinique du rétablissement, c'est-à-dire ceux qui ont un cancer et qui sont, comment dire, qui atteignent la rémission, vous avez une très grande partie, vous avez un tiers des personnes qui vont perdre leur travail après, dans les 2 ans, après, alors qu'ils sont guéris. Et donc, tout ça montre bien, si vous voulez, que la maladie a un impact des territoires autres que les organes.
Le soin est un humanisme, donc. C'est paru chez Gallimard, collection Tract. Cynthia Fleury est en notre compagnie. On va aborder ce premier sujet avec vous. Chasser le clivage gauche-droite et il revient au galop, écrivait récemment L'Express. Alors, est-ce à dire que ce clivage est le plus naturel, tellement ancré qu'il tiraille quotidiennement ceux qui prétendent s'en être affranchis? Peut-on dire que ce n'est ni de droite ni de gauche que de supprimer l'ISF et de privatiser ADP? Vous avez 3 minutes. Le « en même temps » a-t-il déjà vécu? Parce que ce serait trop l'embrouille.
Allez, Manu.
Allez, mon pote.
Oh. Hein, t'inquiète, ça va aller.
Bon. Choisis un côté et plonge. C'est pas compliqué. Te pose pas de questions. Ok?
Ok.
Il est droitier, il va tirer à gauche, c'est sûr.
Enfin, moi je suis gaucher. Généralement, je tire à gauche.
Eh, si tu vois qu'il est droitier, tu plonges à droite.
S'il est droitier, il peut tirer à droite. Et à gauche.
Plonge juste à gauche. Plonge à gauche, ok?
Si tu vois qu'il regarde à gauche, plonge à droite.
Voilà.
Ou à gauche.
Ah, les réunions de groupe à La République En Marche, c'est toujours un peu compliqué. C'est La Dream Team, le film de Thomas Soriot. Alors, Cynthia Fleury, se demander si une mesure est de droite ou de gauche, déjà, est-ce que ça peut faire sens? Je parle à la philosophe politique.
C'est compliqué parce que oui, ça peut faire sens et en même temps, normalement, toutes les grandes mesures, elles sont traversées par soit une dérive ou un biais un peu plus gauchiste ou un biais un peu plus droitiste. Les sujets, ils sont universels. Donc, donc ça, il n'y a pas de souci. En revanche, c'est vrai que, voilà, vous avez même, si on veut reprendre une façon freudienne de le dire, un conflit psychique en soi, un conflit qui nous structure. On va dire Eros et Thanatos chez Freud, c'est-à-dire l'idée qu'on va plutôt vers l'autre et puis Thanatos plutôt dans un système de défense, voire d'attaque, etc. Ça nous structure et ça se dit aussi dans la politique, tout simplement.
Donc Eros, il est à gauche et Thanatos, il est à droite.
Non, non, mais c'est-à-dire qu'on voulait dire qu'on est entre deux polarités et qu'on est tiraillé entre les deux.
On est toujours, si vous voulez, tiraillé dans ces grands conflits qui nous structurent, c'est-à-dire en gros la justice et puis aussi tout simplement le moi, c'est-à-dire le sentiment.
Moi, c'est plus à droite.
Le moi, si vous voulez, c'est un intérêt très particulier. Donc à partir du moment où il y a un intérêt très particulier, il rentre en confrontation avec le monde et c'est un petit prisme qui fait que voilà, on peut éventuellement considérer qu'il a un tout petit peu...
Elle ne veut pas répondre à la question, elle part sur Thanatos, tout ça.
Et l'Express citait un pilier de la majorité qui disait ceci. Il est anonyme, hein, souvent, c'est comme ça. Mais c'est un pilier de la majorité qui dit « C'est une lutte de tous les jours d'échapper à la force de ce logiciel, donc gauche-droite. Dans la réalité de notre politique, nous y parvenons, mais tout le monde n'a pas laissé sa valise au vestiaire. »
Mais c'est vrai, parce qu'en même temps, ce sont des préjugés qui nous constituent, mais qui bloquent aussi parfois. Parce que d'emblée, vous allez ranger quelqu'un ou une idée à tel ou tel endroit, et d'une certaine manière, vous fermez la possibilité de vous articuler avec lui et de trouver des solutions. Donc le pragmatisme veut, normalement, il s'échappe de ce clivage-là. Mais, comme toujours, il y a des grands systèmes de simplification et pour organiser les foules, c'est généralement la simplification qui organise les foules.
Ça
et donc,
ferait beaucoup de bien Manuel Valls,
et la droite.
ça le rassurerait.
Cynthia Fleury avec nous, qui publie « Le soin est un humanisme » chez Gallimard. Juliette Arnaud.
Oui, alors on va commencer par un autre livre qui s'appelle « Les monstres de Templeton ». Ce livre est écrit par une femme, Lauren Groff, sauf que c'est aussi un livre placé sous le double parrainage de Stephen King, qui adore ce premier roman, en même temps vu le titre, c'est bien naturel, et de Fenimore Cooper, le papa du dernier des Mohicans, dont l'ombre est partout dans le roman. De fait, dans Les monstres de Templeton, il y a des Indiens, il y a aussi des esclaves noirs et des self-made men blancs, toute l'Amérique, somme toute. King, Cooper, tout ça, c'est très garçon. Sauf que dans le même temps, vu que c'est écrit par une femme, ça cause aussi des trucs habituels des filles. La Sainte Trilogie, mec, soutif, règle. Oui, non, Christine, vous avez raison de rire, je mens. C'est un livre qui cause de tératologie. Du grec, terrasse, le monstre, logia, étude de. L'étude des monstres, donc plus précisément l'étude des anomalies de l'organisation anatomique des êtres vivants. La tératologie n'est pas un prétexte, voici la première phrase du roman. Le jour où je revins à Templeton en pleine disgrâce, le cadavre d'un monstre mesurant près de 16 mètres émergea à la surface du lac de Glimmerglass. Je, c'est Winnie, c'est la jeune femme narratrice et héroïne. Elle revient dans sa petite ville natale, Templeton, en pleine disgrâce, puisque cette brillante jeune archéologue, qu'elle est, a essayé, par le truchement d'un petit avion, de rouler sur son prof, accessoirement son amant, accessoirement marié, et de rouler aussi sur son épouse. Ce qui est mal. Et peut également bousiller une carrière universitaire. Et puis, Winnie a dans le ventre ce qu'elle appelle une petite crevette. Bref, elle semble enceinte de son prof marié. Ce qui est moyen cool, surtout quand on a essayé de l'écraser. Alors, elle se réfugie chez sa maman à Templeton. Ça, c'est pour la disgrâce. Quant au monstre de 16 mètres, la beauté de ce monstre. Alors, il est à la fois mammifère placentaire, un peu cétacé, un peu ongulé, et hermaphrodite synchrone, capable de surcroît de s'auto-inséminer. Et il est vieux de 200 ans. Et les Indiens du coin l'appellent le vieil esprit triste, on dirait André Manoukian. Et il est mort. Winnie, heureusement, peut se tourner vers sa mère, une mère célibataire, ancienne hippie de San Francisco, et infirmière de profession qui va traiter l'état de disgrâce de sa rejetonne selon les principes de Cynthia Fleury, la rendre capacitaire, lui redonner aptitude et souveraineté dans ce qu'elle est. Sa solution à la maman de Winnie, comme dans la vieille chanson, vous savez, ton père n'est pas ton père mais ton père ne le sait pas, elle va lui dire que son père, en fait, c'est un mec de cette ville, vas-y, cherche-le. Bref, elle propose à sa fille un jeu de piste, à défaut de savoir ce qu'elle va faire de sa crevette. Elle lui dit, cherche déjà qui est ton père. Alors que, ça peut paraître étrange, hein, mais je cite l'auteur, Lauren Groff, elle dit, nous avons besoin d'une horde d'aïeux derrière nous pour nous tenir debout. Plus le futur est effrayant, plus il semble compliqué, plus nous avons besoin de prendre appui sur notre passé. Enfin, et à propos de cette crevette dans le ventre, je suis sûre que Winnie trouverait une lumière dans d'autres mots de Cynthia Fleury. Encore une femme qui pratique le soin dans un hôpital comme la maman de Winnie. Des mots qui sont à la toute fin du tract de Gallimard, Le soin est un humanisme. Elle écrit, qu'est-ce qu'une mère désenfantée ? C'est une mère endeuillée qui a perdu son enfant. Ce sont aussi celles qui n'arrivent pas ou ne sont pas arrivées à avoir un enfant et portent cela comme une tristesse et une errance infinie. Ces femmes, je voudrais les saluer avec douceur, leur dire qu'elles sont aussi nos mères, nos filles, nos femmes, leur dire que la filiation maintient sa force et son mystère au-delà de la mort. Je ne peux pas parler pour Winnie, bien sûr, c'est un personnage de fiction, mais je sais que toute une palanquée de femmes vous en seront infiniment reconnaissantes, dont moi. Mesdames Groff et Fleury, merci, bisous, merci.
Juliette Arnault, merci. Et bravo, vous êtes arrivée au bout. Allez, parlons cannabis avec Cynthia Fleury. Le cannabis thérapeutique revient dans le débat. Le cadre des expérimentations est enfin précisé. Même si aucun test n'est prévu avant 2020, on a donc le temps de voir venir. C'est l'occasion pour les comités de scientifiques de nous proposer un tuto. Voici les bases, faites tourner. Là, j'envoie le son vraiment.
Marie Juernin, pétard, archie, sont autant de termes génériques que l'on utilise pour désigner une seule et même substance, j'ai nommé le cannabiste. Au titre scientifique, nous allons se prêter à une petite expérience. Nous voyons immédiatement que les effets annoncés de ce psychotrope sont largement exagérés. En effet, un peu de volonté, de maîtrise de soi, et voilà. Voilà. Bon, où est-ce qu'on en était, moi
Faux contact, c'était le programme de la télévision belge avec le comédien Manu Taureau. Donc, on a une question du bac, quasiment, pour vous, Cynthia Fleury, à ce sujet de cannabis thérapeutique, dont les cadres des expérimentations qui n'auront lieu qu'en 2020 et qui vont durer longtemps, on les connaît aujourd'hui. Question du bac, est-ce que tous les moyens sont bons pour apaiser la souffrance? Ah, c'est vrai, c'est une belle question.
Comment on peut réfléchir? Par quel bout est-ce qu'on peut prendre cette question?
Non, tous les moyens ne sont pas bons. Mais en même temps, on doit pouvoir réfléchir à tout. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va aller valider tout. Mais on ne doit pas s'empêcher, si vous voulez, à un moment donné. Et concernant le cannabis, très longtemps, on s'est empêché parce que précisément, c'était du cannabis et tout, et voilà, et tout l'univers, entre guillemets, symbolique auquel cela réfère. On s'est empêché de se dire, mais non, il y a un usage thérapeutique, comme il y a un usage thérapeutique de l'opium, etc., etc., et qui existe depuis bien longtemps. Donc, d'autres pays s'y sont mis depuis longtemps, avec beaucoup d'efficacité, sachant que ça passe pas par le fait d'en fumer, hein, c'est par d'autres manières de
gâteaux.
Oui, alors non, ça c'est le côté festif, oui, effectivement, oui, oui. Disons qu'à l'hôpital, on passe par d'autres manières de divulguer un cachet, enfin bref, une goutte, enfin bref, différentes manières, et c'est assez efficace, donc ça c'est un premier point. Et puis derrière, vous avez tout de suite la question de la légalisation ou de la dépénalisation du cannabis, et ça pareil, vous avez des controverses. Moi j'ai une position qui n'est que la mienne, hein, qui n'est pas celle du comité national d'éthique dont je fais partie, mais la mienne c'est je suis pour la légalisation du cannabis et même de toutes les drogues, donc vous voyez je suis très très ouverte mais pour des raisons assez simples, hein, pour des raisons à la fois de lutte contre l'économie parallèle, d'ordre, et puis pour des raisons aussi thérapeutiques, à partir du moment où on a un lieu, si j'ose dire, légal, on peut mieux soigner, on peut mieux accompagner, on peut mieux connaître, etc., etc. Il n'y a pas de phénomène de contournement. Donc, dans tous les cas, même si c'est difficile à entendre, c'est vrai que ça me paraît être une option plus valable.
Voilà, vous avez répondu à la question du bac, et pas en 3 heures, en 4 minutes. Et ça, c'est évidemment, c'est Cynthia Fleury qui est avec nous.
Eh, c'est ça.
Eh bien, c'est l'heure de Frédéric Fromet, et c'est pas n'importe qui va l'accompagner. Frédéric aime l'idée de se complexifier la vie. Et cette semaine, il a demandé à Charline si elle voulait bien interpréter la chanson du vendredi avec lui. Et, est-ce l'inconscience? Est-ce la folie? Est-ce la fin de saison? Elle a dit oui. Frédéric Fromet, de quoi allez-vous à deux nous chanter?
Eh bien voilà, à la veille de la journée nationale de réflexion sur le don d'organes, j'ai invité Charline à chanter avec moi, car bien entendu, nous avons de très beaux organes. Regarde, c'est un cadavre, mate les organes, c'est comme un rêve.
J'aperçois un cœur, un poumon, quel bonheur, qu'on les prélève.
Besoin d'un rein, envie d'un foie, j'ai le pancréas qui déconne. J'aime tes viscères, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin d'un rein, envie d'un foie, petit macabre, il faut que tu donnes. Toi qui es mort, ton corps te fait une belle jambe. Besoin d'un rein, envie d'un foie, en bon état. J'aime que tu me transmettes un bout de squelette, même si t'es des flics. J'aime que tu me lègues un bout de cervelle. Ah, ah non, tu es flic. Besoin d'un rein, envie d'un foie, mais je préfère que tu m'abandonnes. Si ton foie provient du Nord ou bien de Bretagne, besoin d'un rein, envie d'un foie, mais je préfère que tu m'abandonnes. Si tu t'appelles par exemple Gérard Depardieu, besoin d'un rein, envie d'un foie, tu es concis, tu t'en tamponnes. Pour nous chanteurs, ce n'est pas le même malheur. Besoin de rien, envie de quoi? Envie d'une voix.
Bravo.
Merci Juliette d'avoir passé cette heure avec nous. On a bien emballé l'émission.
C'était mon plaisir, Charline. Je vous en prie.
sont vraiment... Alors, on est bientôt en week-end, rassurez-vous, vous aussi peut-être, chers auditeurs. En tout cas, on va se retrouver lundi en direct, ça c'est sûr. Et on voudrait dire merci à toute notre équipe qui nous supporte toute la semaine. Ils ont bien du mérite. À la préparation, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Riveau, épaulée par notre stagiaire et souffre-douleur, Céline Dubois, Ramzi Assadi, notre rocher, notre associé à la production, aux blagues et au planning, et c'est pas une mince affaire, François Audouin à la réalisation, à la technique, Pierre-Yves de Rolin, et tous ses amis. J'ai envie de dire merci à toutes les équipes de France Inter, et à lundi.